Écho d'économie.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de Écho d'économie sur Radio Capi. Le gouvernement congolais projette de lever 471 milliards de francs congolais par le biais des obligations du Trésor sur le marché financier local en 2024. Pour le premier mois du premier trimestre 2024, l'opération est prévue ce mardi 23 janvier pour 39,25 milliards de francs congolais. La renégociation du contrat Sicomine pourrait générer 7 milliards de dollars américains. Le président Tshisekedi envisage orienter cet argent vers la construction des infrastructures en vue de la connectivité du pays. L'invité de l'économie ce soir est Emmanuel Umpala Kumba. Il est directeur et fondateur de AfriWatch, spécialisé dans la gouvernance minière. Il va commenter cette actualité avec nous. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons Écho d'économie par le marché financier local pour parler du calendrier d'émission des obligations du Trésor en faveur de la Banque centrale du Congo, le Trésor public donc, calendrier que le ministère des Finances vient de publier. À travers ce document signé le 15 janvier, le gouvernement veut emprunter 471 milliards de francs congolais sur le marché local en 2024, Justine Moussaou.
Ainsi, renseigne le document, pour le premier trimestre, soit de janvier à mars 2024, 105,25 milliards de francs congolais seront levés. La première émission de ces titres pour le premier trimestre intervient ce mardi 23 janvier pour 39,25 milliards de francs congolais. Les obligations et les bons du Trésor sont des moyens par lesquels l'État emprunte de l'argent sur le marché financier auprès des agents économiques pour financer certaines de ses dépenses. Ces titres financiers sont garantis à 100% par l'État et remboursés à échéance avec un préalablement convenu entre l'État et ses créanciers.
Justine, le Japon annonce son apport et son accompagnement à la RDC dans le domaine de l'énergie en ce qui concerne la mise en œuvre du projet INGA, le développement des énergies renouvelables ainsi que dans l'exploitation et la transformation locale de minerais.
C'est le message que le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Fukazawa Yoshi, a transmis à Vital Kamerhe le week-end à Kinshasa. Cet apport s'exécutera à travers deux projets, à savoir le financement non remboursable de la construction des sous-stations énergétiques à Kinshasa et la disponibilité d'un prêt non remboursable pour la mise en œuvre du projet INGA. Et s'exprimant dans un communiqué, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale dit que la mission japonaise est venue examiner avec la RDC la possibilité de mettre en œuvre ces deux projets dans les plus brefs délais. Il a par ailleurs exprimé l'intérêt du Japon à coopérer avec la RDC dans le domaine minier, précisément dans l'exploitation des minerais stratégiques. La réaction de Vital Kamerhe, la RDC, reste ouverte à l'expertise japonaise dans tous les domaines, dont l'agriculture, l'énergie et les infrastructures des bases, considérées comme prioritaires, pouvait-on lire dans le communiqué.
Voyons à présent les contours de l'investiture du chef de l'État, cérémonie qui a eu lieu samedi dernier à Kinshasa. À côté des discours politiques, il est également question des développements socio-économiques en parallèle. C'est dans ce cadre que le patron de la BAD, Banque africaine de développement, Akimwini Adesina, a tenu un déjeuner de travail avec quelques ministres de la RDC, dont Julien Paluku, le ministre de l'Industrie, qui a échangé également avec l'envoyé spécial britannique ainsi que des membres de la délégation belge. Julien Paluku nous en dit plus au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
Dans son discours d'investiture, le président Félix Antoine Tshisekedi a axé son nouveau quinquennat sur des actions concrètes et c'est la raison pour laquelle, à marge de cette investiture, nous avons pu nous entretenir d'abord avec le président de la Banque africaine de développement pour voir comment cette banque peut accompagner ce nouveau quinquennat, surtout que le président de la République a parlé de l'industrialisation du pays. Vous savez que je suis porteur d'un plan directeur d'industrialisation et la Banque africaine de développement est un acteur majeur parce qu'elle l'a déjà fait avec l'accompagnement de la zone économique spéciale de Maluku en libérant 20 millions de dollars, mais également elle compte nous accompagner dans d'autres projets, notamment dans l'espace équateur, dans l'espace Kasaï, dans l'espace Est, mais également sur beaucoup d'autres infrastructures. Ensuite, nous avons rencontré l'envoyé spécial britannique parce que vous savez que la Grande-Bretagne est un acteur majeur et que la paix dans la région des Grands Lacs demande que nous puissions mutualiser toutes les intelligences, y compris celles de la Grande-Bretagne. Mais au-delà de cela, nous avons échangé autour de la présence des entreprises britanniques dans l'espace congolais, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que nous offrons à l'Europe, et nous avons voulu accéder au marché britannique pour que le commerce s'intensifie davantage entre la RDC et la Grande-Bretagne.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie. 7 milliards de dollars américains, c'est la somme que la RDC compte récupérer dans la renégociation du contrat chinois, le contrat Sicomine. Le président de la République l'a révélé dans son discours d'investiture ce week-end à Kinshasa et il compte orienter cet argent dans la construction des infrastructures en vue de la reconnexion des régions de la RDC. Comment les acteurs de la société civile accueillent-ils cette nouvelle? Réponse avec Emmanuel Umpala Kumba. Il est le directeur et fondateur de l'organisation AfriWatch, spécialisée dans la gouvernance minière. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Emmanuel Umpala, bonjour.
Bonjour, madame.
Renégociation du contrat minier. La RDC a pu obtenir une somme de 7 milliards de dollars américains pour le désenclavement des territoires de la RDC. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous accueillez cette nouvelle?
Je dois dire qu'au niveau de AfriWatch, ça a été une surprise, hein, parce que nous savions qu'il y avait des négociations qui étaient en cours, des négociations secrètes qui étaient en cours. Parce que vous allez vous rappeler que depuis que les négociations avaient commencé, notre organisation exigeait la transparence autour de cette négociation, de la renégociation de cette convention-là. Malheureusement, cela n'a pas été entendu. Les discussions ont continué entre les deux parties. Comme tout le monde, nous avons été surpris.
Mais c'est plutôt une bonne surprise, non?
En tant qu'organisation de la société civile, je pense qu'il y a encore des questions à se poser autour de comment les parties sont arrivées à ces montants-là, mais aussi comment la partie chinoise va libérer ou verser cet argent-là. Si on rentre dans la convention initiale de 2018, il était prévu que les Chinois allaient effectivement mettre 3 milliards dans les infrastructures. 15 ans après, il n'y a rien. Nous n'avons rien vu venir. Et lorsqu'on regarde les rapports de l'initiative de transparence dans les industries extractives, après 15 ans, les Chinois n'ont construit les infrastructures qui ont représenté autour de 800 et quelques millions de dollars. Et là-dedans, on parle même de la surfacturation. Donc, oui, ça peut être une bonne nouvelle, mais à quelles conditions et comment les choses vont se passer? Donc, nous exigeons plus de transparence autour de cette renégociation.
Ce processus de renégociation, il est à quel niveau? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Malheureusement, il n'y a pas assez d'informations en dehors du fait que le président l'a annoncé le 20 lors de la cérémonie de prestation de serment. Son premier discours, il a annoncé, et comme je l'ai dit, ça a été une surprise pour, je crois, pour tout celui qui suit le dossier. Nous savions, quelques mois avant les élections, le président avait fait le voyage en Chine et nous savions que pendant ce temps, le dossier allait être évoqué. Malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Après là, il n'y avait plus rien qui avait filtré jusqu'à ce que le président puisse l'annoncer publiquement lors de sa prestation de serment.
À votre niveau aujourd'hui, quelles sont alors vos attentes par rapport à ce processus?
En fait, depuis le début, nous demandons à ce qu'il y ait la transparence, à ce que les informations soient partagées pour que la société civile, les citoyens dans leur ensemble, soient au courant des termes de renégociation, mais aussi et surtout comment cela devra être mis en application. Est-ce que cela ne va pas engendrer des intérêts du côté chinois? Et je me rappelle que nous avons fait une bonne analyse qui avait constaté que la partie chinoise de 2008 à 2021 n'avait pas respecté ses engagements et qu'il fallait tout simplement annuler les termes du contrat et ramener le contrat, cette convention chinoise dans le droit commun. Ce qui n'a pas été fait et que le gouvernement a estimé qu'il fallait qu'il renégocie avec ses partenaires. Maintenant, c'est à quelles conditions? Qu'est-ce que la RDC va gagner? C'est bien beau de dire 7 milliards, mais on doit savoir dans les détails qu'est-ce qui est derrière.
Quand vous dites ramener cet accord dans le droit commun, cela veut dire quoi exactement?
Ça signifie que pour nous, il y a dans cette convention, il y a une partie qui devait être remboursée avec les intérêts. Et donc pour nous, la RDC ne devait plus verser ces intérêts-là et que la SICOMINE devait payer les taxes et tous les droits comme les autres entreprises. Parce que nous avions calculé au cours de la même période, les entreprises de presque la même taille de la SICOMINE avaient payé à l'État en termes de taxes et impôts. Et ce que la SICOMINE disait avoir remboursé en termes de dettes, mais aussi payé à l'État, était presque insignifiant, alors que c'est des projets de presque même, de même taille. Alors, du fait que du côté de la Chine, on n'avait pas respecté ça, donc pour éviter l'endettement de la RDC autour de ces projets, nous étions en train de demander à ce qu'on rentre dans les droits communs et que la SICOMINE paye des impôts comme toutes les autres entreprises. Et que de l'autre côté, cela éviterait à la RDC d'être endettée par rapport à ces projets.
Emmanuel Lumpala, c'est un dossier que vous avez vraiment suivi de très près. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des acteurs de la société civile qui font partie aussi de cette commission de révisitation du contrat sino-congolais?
Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des collègues, d'une manière directe ou indirecte, qui ont contribué, je pense, hein, mais il n'y a pas des acteurs qui participent dans cette commission-là.
Ici, est-ce que c'est une manière pour vous de demander au gouvernement d'élargir un peu les membres autour de la table pour cette renégociation?
Pas du tout. Il appartient au gouvernement de pouvoir renégocier, mais nous voulons voir beaucoup plus la transparence autour de cette renégociation. Ça signifie qu'on devait savoir quels sont les membres du côté congolais qui sont dans la commission de manière transparente. On devait avoir les thèmes de référence du travail de la renégociation, quels sont les points qui devaient être abordés et pourquoi pas savoir quelles sont les positions du côté RDC. Je pense que ça, c'est des informations qui devaient être accessibles à tout le monde, mais pourquoi pas aussi demander des contributions à la société civile qui suit. Ça n'a jamais été partisan de dire qu'on doit être tellement parce que nous avons des représentants, l'État nous représente, mais Nous avons besoin que cela se passe de manière transparente.
Emmanuel Lumpala, je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Merci Emmanuel Lumpala et Sita Bachiz Nabizana. Et grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Écoute économie est terminée. Merci de le retrouver sur www.radiocapu.net.